Simple Colombe, Mémoire d'une novice récidiviste, quatrième partie, Retour au Far West. Le meilleur des mondes. Si tu te vois comme un paysan sans terre, possédant une source d'eau limpide et claire, sache que le royaume des cieux appartient aux pauvres, aux errants, aux orphelins. Mais pour que l'amour abonde, laisse la lumière jaillir de l'ombre. Laisse. Spear It, Rejoice Production, chanson Laisse. Garde espoir. Tout peut changer, s'éclairer. Allez. Construis la route où tu veux marcher. Mets-y volonté, ténacité. Garde espoir, tout peut changer, s'éclairer. Allez, construis la route où tu veux marcher. Ce n'est juste qu'une question de volonté. Spear It, Rejoice Production, chanson Garde espoir. Je vais te buter, fils de... Les deux hommes échangeaient, sur un ton éloigné de toute courtoisie, en poussant des clameurs de forcenés, des paroles mettant en cause leurs mères respectives. Ils faisaient de grands gestes des bras, et je me demandais si un couteau allait sortir, ou si ce n'était que théâtralement culturel. Après 10 ans de Carmel, voilà moins d'une heure que j'étais de retour dans le monde, et que j'essayais de prendre le soleil sur le balcon de mon père. J'eus une sorte de vertige. Voilà bien une décennie que je n'avais plus entendu ce genre de choses. Dans la vie cloîtrée, si une religieuse oublie de mettre « chère sœur » sur un billet à destination d'une consœur ou pince un peu la bouche en la regardant, c'est presque déjà une agression passible de culpe ou de confession. Vertige. Retour au Far West, ô joie et allégresse. Les jours suivants, je remis les pieds dans des supermarchés et autres magasins après 10 ans d'absentéisme. Là aussi, dans les paradis très artificiels et terrestres de la consommation, le choc était violent. Plus rien n'était donc à taille humaine. Quel amoncellement de biens! Que de stimuli visuels après le dépouillement et les teintes neutres de mon monastère! Que d'artifices, d'affiches, de couleurs flashy, d'éclairages artificiels et d'halogènes dans ces grands temples profanes après ce cadre naturel où j'avais vécu! Et à quoi bon cet éventail de choix de plus en plus illimité et pointu sur des biens si volatiles. Quelle démesure! J'en étais sonné comme un boxeur mis KO. Chaque produit était matière à dilemme. Procès, dont le consommateur était promu seul juge et qu'il tranchait à longueur de journée. Cet éventail des choix innombrables du paradis consumériste ne constituait-il pas une sorte de revanche sur la vie réelle, où les contraintes non choisies nous emprisonnent bien vite, malgré les illusions de toute puissance de la jeunesse? Et cet océan de bruit, ce bruit qui n'arrêtait pas, toutes ces musiques omniprésentes, ce bourrage de crâne constant, pour des niaiseries de niaiseries. Or, dans les débuts de ma vie religieuse, j'avais avoué à la prieure de mon Carmel « Ma mère, je n'ai jamais entendu un pareil silence. J'ai l'impression d'être sourde et mes oreilles se crispent à la recherche du moindre son. Mais on n'entend ni un oiseau, ni le vent, ni une mouche, ni la moindre activité humaine. Ce silence me donne l'impression d'être dans un film de science-fiction. » Après une guerre nucléaire, je me retrouve la seule survivante dans un monde mort. Violence du contraste. Un proche à qui j'en parlais me répondit en haussant les épaules. « Mais ma pauvre, il ne faut pas écouter. Moi, je n'y fais absolument pas attention. Toi, tu entendrais une mouche marcher au plafond. On devrait t'embaucher dans le contre-espionnage. » Oh Dieu, quand on a des oreilles, comment faire pour ne pas entendre? Et quand on a des yeux, pour ne pas voir? Si je pouvais ne pas penser aussi, je pressens que ça me simplifierait beaucoup la vie dans le monde postmoderne. Notre monde, en effet, n'est-il pas organisé à la manière de l'Empire romain, appuyé sur le slogan révélateur du pain et des jeux? N'est-il pas fondé de fait, comme lui, malgré toute sa prétention juridique à la justice, sur la classification des êtres humains en deux catégories, dont l'une a droit au statut d'homme et l'autre s'en voit privée dans les faits, voire les textes, pour la bonne marche de la société telle qu'elle fonctionne? Ne vivons-nous pas dans un monde dont la dynamique et les valeurs à la mode sont destructeurs de toute intériorité? Le culte pour les sports extrêmes, l'obsession des loisirs et des voyages, comme toutes les excitations de la dernière nouveauté technique, par exemple, nous maintiennent dans une zone somme toute périphérique de notre personne. Quel appauvrissement! Ah, si je possédais cet art qu'ont beaucoup, semble-t-il, de ne penser qu'à ce qui leur profite dans l'immédiat, sans s'encombrer de considérations éthico-métaphysiques ou sans s'embarrasser des problèmes de leur prochain. Ce qui tue les philosophes et les rend dépressifs, dit-on, c'est qu'ils réfléchissent trop. J'en savais peut-être trop pour être tranquille? En souriant mentalement à cette pensée, je me rappelais ces films où des truands interpellent un quidam en lui disant « Tu en sais trop, toi, tu dois mourir. » Perplexe, ahuri, je parcourais alors les rues des villes devenues futuristes derrière mon dos en une décennie. Gigantisme des bâtiments, audace ou élégance de l'architecture, qui ne me déplaisait pas d'ailleurs, routes réaménagées et élargies, masures et vieilles fermes détruites ou métamorphosées. Disparition rapide du côté agricole et de la simplicité, voire la pauvreté initiale. Une génération va, une autre vient. Moins de cachets authentiques, plus de confort et de technique. Le moindre terrain occupé ou en chantier. Effervescence. Oh, le cœur mental, par contre, devant les trottoirs constellés de crachats, de crottes de chiens, de mégots, de chewing-gums, de verres brisés et de canettes de bière ou de soda. Je m'étais déshabitué, dans nos cloîtres propres et coquets, où seule la poussière et un peu de terre étaient autorisées à se poser temporairement. À moins que la situation ne se soit dégradée. Était-ce vraiment déjà comme ça quand j'étais jeune? Il ne me semblait pas. Par contre, je me rappelle que l'on trouvait encore facilement des décharges sauvages, disparues depuis, et que l'on ne pouvait entrer dans un bar sans prendre un bain de fumée. J'ai un souvenir mémorable d'une fois où j'avais été pris en otage par ma professeure de philosophie qui m'avait coincé à l'angle d'une banquette de bar dans la tabagie des apprentis philosophes qu'étaient mes camarades de classe, brochettes humaines me coupant la sortie à droite et à gauche. Les pièces à conviction, que je voyais déposées partout sur les trottoirs, et pas que là, me semblaient symptomatiques de toute une société. N'importe quel analphabète pouvait en lire le message de malaise abyssal et dire respect devant la vie, et le prochain par conséquent. Par ailleurs, Dès mes premiers contacts avec l'administration, des secrétaires compatissantes, me regardant avec des yeux de chien battu, me prévinrent. Attention, vous entrez dans un monde de requins. Comme je l'avais expliqué plus haut, après une remise à niveau sommaire en 1999, j'ai exercé de nouveau un emploi, puis un autre, et une nouvelle démission s'est ensuivie. Je ne me sentais ni préparé, ni motivé pour affronter au quotidien les exigences de ma nouvelle tâche. De plus en plus, je prenais conscience que la pratique d'une profession demandait, à notre époque, une réelle vocation et ne pouvait s'exercer en dilettante. Or, pour le coup, c'est moi qui ne me sentais pas la vocation de ces emplois dans mon fort interne, du moins pas une vocation qui porte à brûler les ponts derrière soi et à consacrer toute son énergie vers un but unique, en en prenant tous les moyens rationnels de réussite. Mon cœur n'y était pas. N'ayant pas fait réellement le deuil de mon monastère, et sentant toujours au fond de moi un appel brûlant et impérieux à la vie religieuse, ou, si l'on trouve le terme trop fort et préjugeant de la position divine qui ne m'appartient pas, un élan puissant vers ce genre d'état de vie, je demandais, comme je l'ai déjà expliqué, à réintégrer mon Carmel d'origine. La mère prieure ayant changé entre-temps, je fus accepté de nouveau en 2001 et recommençai tout le cursus. Postulat, bref cette fois, prise d'habit, numéro 2, noviciat, numéro 3. C'était une manie. Je devenais la spécialiste des lettres de motivation à adresser au chapitre à chaque étape, une abonnée du voile blanc, une intermittente de la vie consacrée, une sœur touchée par la précarité de l'emploi. Ensuite, comme je l'ai évoqué, je suis passé de cette communauté dans une autre où l'on m'a remercié, au bout de 16 mois, le responsable m'ayant assuré que, manifestement, Jésus m'attendait ailleurs que dans cette structure, c'est-à-dire dans le monde. J'ai vécu une nouvelle réinsertion, incontournable, puis, prenant mon souffle pour mieux sauter, j'ai réintégré une communauté, l'ultime et la dernière à mes yeux. Si la nouvelle expérience n'aboutissait pas, je déclarerais forfait. On ne peut pas être plus royaliste que le roi des cieux. Personne ne pourrait m'accuser de n'avoir pas tout tenté de mon côté, dans la limite des possibilités qui m'étaient données. En décembre 2008, comme je l'ai raconté, je replongeais définitivement dans la société que j'avais imaginé trop vite avoir quittée à tout jamais. Dans l'un des magasins de vêtements du centre commercial, je m'affaire, désireuse de renouveler ma garde-robe, plus tout à fait d'actualité. J'avoue que ce n'est pas désagréable, même si j'étais profondément attachée à l'intemporel habit religieux. Mais finalement, le choix d'un vêtement permet de livrer un message original qui correspond à la personnalité de chacun. Pour ceux qui n'ont pas, ou plus en l'occurrence, voix au chapitre, c'est un manifeste ambulant. Les mains chargées de cintres et le nez dans les textiles de couleur, j'entends soudain. « Sœur Colombe, est-ce que c'est toi ?» En levant la tête, je reconnais, après un moment de stupeur, une jeune femme blonde côtoyée en 2003 dans l'une des communautés où j'avais séjourné, située à l'autre bout de la France, ou presque. Si elle ne s'était pas manifestée, jamais nous n'aurions pu échanger. Elle avait, je me rappelle, une formation d'infirmière. Au fil de la conversation, elle m'expose la situation en matière d'emploi dans plusieurs branches où j'envisageais éventuellement de me reconvertir, me déconseillant ceci ou cela, puis elle termine par un conseil pratique de formation très adaptée à ma situation, ainsi que par les débouchés à envisager dans ce cas. Avec émotion, je dois reconnaître à l'heure qu'il est que son conseil a été inspiré sur toute la ligne, puisque les choses se sont passées pour moi comme elle l'avait préconisé. Dieu peut nous envoyer son ange dans un centre commercial alors que nous avons les bras chargés d'articles à essayer et les yeux fixés sur les étiquettes. Sous mes fenêtres, je les entends mener leur sarabande endiablée avec de grands cris sauvages. Ils, ce sont des drogués qui ont établi leur quartier général dans le secteur pour la plus grande joie des locataires dont ils facilitent grandement la mobilité et des sociétés de déménagement dont ils grossissent la clientèle. Je n'ai rien contre le reggae, musique optimiste et entraînante. Mais dans la rue, à 2 heures du matin, et sur un volume qui remplit le secteur et réveille aussi bien tous les habitants de l'immeuble que des maisons voisines, et ce durant des heures, et avec une régularité exemplaire au fil des semaines, c'est quelque peu fâcheux. Du reste, à en croire l'agent de police que j'ai eu au bout du fil et auquel je me suis plainte de ce tapage nocturne, c'est bel et bien le discours que les policiers eux-mêmes tiennent à ces mélomanes. Il faut croire que leur éloquence n'est pas assez étudiée, puisque 3 minutes après le départ de la patrouille, au dire même de l'agent, la musique reprend de plus belle. Dans mon agglomération, la nuit en question, pas moins de 65 lieux de nuisances sonores intempestives avaient été signalés à la police. J'ai essayé le casque de chantier, les boules-quies en divers matériaux, l'oreiller moelleux sur l'oreille, le sac de couchage dans le couloir, songer à dormir même dans la baignoire. Jusqu'au moment où j'ai réalisé que la musique extérieure appréciait l'acoustique exceptionnelle de ma salle de bain. Mais je n'ai pas trouvé de solution, hormis celle, bien sûr, de me lever comme les chartreux de 1 heure à 3 heures du matin, ou bien davantage, pour prier, ou encore de mettre de la musique à mon tour pour couvrir la précédente qui finissait par me donner de la tachycardie. Que doivent faire les personnes qui travaillent et ont à se lever tôt et à se présenter fraîches et disposes face à toute éventualité professionnelle? Que font les enfants et les bébés qui ont tant besoin de sommeil et de sécurité? Que font les malades? Que font les personnes âgées, craintives et isolées, même si la surdité progressive de certaines leur donne un atout non négligeable en la matière? Quant aux femmes seules dans ma situation, le plus prudent qu'elles puissent faire, face à ces gentlemen mélomanes, est de rester cloîtrées chez elles et de fermer leur bouche avec une discrétion qui manque singulièrement à ces noctambules allègres. Un petit démon, bien sûr, ne manque pas de me chuchoter quelques solutions miracles. Si un modeste marteau pouvait être distribué aux forces de l'ordre, et qu'elle puisse en toute légalité en frapper légèrement la source sonore, nul doute que le problème du tapage nocturne ou diurne serait résolu sur toute la France en quelques jours. J'entends déjà la réplique à ma plainte. Quoi ? Vous avez parlé de sanctions ? Ne savez-vous pas que les sanctions engendrent des traumatismes irréversibles ? Seul le dialogue et la psychologie peuvent faire évoluer les choses. Bien. Messieurs les penseurs et les législateurs, où habitez-vous d'ailleurs? Dialoguons, dialoguons. Au fait, je viens de perdre le nouvel emploi que j'exerçais depuis 2 ans. Il paraît que j'avais des blancs, de la difficulté à me concentrer et que j'avais souvent l'air ailleurs.